France Culture.
Réplique, la crise de l'Occident, avec Mathieu Bock-Côté et Raphaël Enthoven. Nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine a été dévoilée le 5 décembre. Ce document, fort peu diplomatique, prend acte d'un changement d'époque. Après la fin de la guerre froide, les élites de la politique étrangère américaine se sont persuadées que la domination américaine du monde entier répondait aux meilleurs intérêts de notre pays, assure l'introduction. Mais les affaires des autres pays nous préoccupent seulement dans le cas où leurs activités menacent directement nos intérêts. Autrement dit, les jours où les États-Unis soutenaient l'ordre international complet, comme Atlas, sont finis. La Russie est traitée comme un facteur à stabiliser et non comme un facteur déstabilisant. Et l'Europe, en revanche, est très vivement critiquée. Cultiver la résistance à la trajectoire actuelle de l'Europe est un objectif affiché par la stratégie de sécurité nationale qui promet de s'opposer aux restrictions antidémocratiques poussées par les élites sur les libertés fondamentales en Europe. Et voici la formule choc. L'Europe est menacée d'effacement civilisationnel. À Mathieu Bock-Côté, qui publie « Les deux Occidents », et à Raphaël Enthoven, qu'on peut lire chaque semaine dans Franc-Tireur, je voudrais d'abord demander ce qu'il pense de ce diagnostic et de cet avertissement. Mathieu Bock-Côté.
Alors, puisque l'avertissement vient de Donald Trump, on a facilement tendance à le balayer du revers de la main en se disant « Trump, il suffit de prononcer son nom, en fait, pour disqualifier tout ce qui viendra ensuite ». Or, le fait est que le propos de la stratégie de la Maison-Blanche me semble assez exact dans sa description de ce qui arrive à l'Europe. Premièrement, ce qu'on nomme l'effacement civilisationnel, c'est l'autre nom de la submersion migratoire qui frappe l'Europe depuis une quarantaine d'années, qui s'est accélérée depuis une quinzaine d'années et qui condamnera à terme au cours du présent siècle les peuples historiques européens à devenir minoritaires en leur propre pays. Donc, quand on change la population d'un pays, d'un continent, on change son peuple, on change sa culture, on change son identité, on change sa civilisation. Donc, premier élément. Deuxièmement, est-ce qu'on assiste à un rétrécissement aujourd'hui de la démocratie libérale, une dégradation interne de la démocratie libérale en Europe occidentale, comme l'avait dit Jill Evans au moment de son discours de Munich? Je crois que c'est tout à fait exact. Par exemple, ce que j'appelle la cordon sanitarisation des partis dits populistes, l'extrême droitisation de toute forme de désaccord avec l'idéologie dominante, les restrictions de plus en plus nombreuses à la liberté d'expression au nom de la lutte contre la haine, entre guillemets, ou la désinformation, entre guillemets, la volonté de rétrécir toujours le périmètre de la raison autour d'une forme de ce que j'appelle l'extrême centre qui devient la force hégémonique des temps présents. Je pense que ce sont des mises en garde tout à fait légitimes qui sont d'ailleurs, qui traversent les pays européens depuis plusieurs années. Ils nous viennent désormais de Washington avec la brutalité indéniable de Donald Trump et qui contestera que ce soit un personnage brutal et grossier. Il n'en demeure pas moins que sur le fond des choses, cela me semble exact.
Raphaël Enthoven.
La première chose qui me frappe, moi, c'est le décalage entre la façon dont Trump nous parle et la façon dont on lui répond. Le ton qu'il emploie pour s'adresser à nous et le ton qu'on emploie pour réagir. Interrogé sur ce document lors d'une conférence à Doha, au Qatar, la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a indiqué le 6 décembre que les États-Unis restaient naturellement le plus grand allié de l'Union européenne. Bien sûr, il y a beaucoup de critiques, mais je pense que certaines d'entre elles sont également fondées. Je trouve fascinant la façon dont Kaya Kallas ou bien Ursula von der Leyen parle à Trump. Je trouve qu'on n'est pas suffisamment mal élevé avec lui et qu'il ne respecte d'une certaine manière que ce genre de dureté et nous en manquons singulièrement. La deuxième remarque qui me vient, c'est que Trump est une chance pour l'Europe. D'abord parce que c'est un anti-modèle, et là on sera d'accord de ce point de vue, je pense, c'est un anti-modèle pour la démocratie libérale, et comme c'est le partisan d'un retour exclusif au rapport de force, l'éloignement des États-Unis est, à mon sens, en hégélien que je suis pour l'heure, si vous voulez, l'éloignement des États-Unis me paraît l'occasion pour l'Europe de prendre en main sa défense, de réaffirmer ses frontières, de réintroduire l'Ukraine dans ses frontières, et tout à l'inverse d'un effacement civilisationnel, de promouvoir un continent qui repose sur une idée, plus encore que sur une histoire, ou qui aurait le double avantage de reposer sur une idée et sur une histoire. Un dernier point, pour ne pas être trop long, sur les démocraties libérales que Mathieu Bock-Côté décrit comme hantées d'une certaine manière par la censure et gouvernées par un extrême centre hégémonique. Il ne s'agit pas tant, à mon sens, d'hégémonie de l'extrême centre que d'une requalification des termes du débat. Le débat n'est plus aujourd'hui entre la droite et la gauche, parce que la question que les gens se posent aujourd'hui n'est plus de savoir s'ils sont pour l'égalité ou la liberté. Le débat se pose aujourd'hui entre les gens qui veulent se replier sur eux-mêmes et les gens qui veulent s'ouvrir au monde. Et de ce point de vue, l'extrême-centre n'est pas en situation hégémonique, c'est juste l'un des deux termes de l'alternative qui se prépare.
Nous verrons toutes ces questions. Arrêtons-nous à Trump. Parce que c'est un document qui vient de l'administration américaine, qu'il est cité 27 fois sur 29 pages, donc il est difficile de faire l'économie du personnage. Il est brutal, dites-vous, Mathieu Bock-Côté. C'est presque gentil. Trump est un personnage infantile, ignorant, ignorant à tel point qu'il ne lit jamais. C'est ce que dit Giuliano da Empoli dans L'heure des prédateurs. Il ne lit jamais, il ne lit pas les journaux, il ne lit pas les livres, bien sûr. Il n'y même pas les notes de ses collaborateurs. Il est mégalomane, c'est-à-dire Trump nous explique, il y a une casquette Trump, Donald Trump was right about everything. Imaginons un instant Lincoln, Roosevelt et même Reagan affublés d'une telle casquette. Mais j'en viens à une question plus précise. On peut dire, nous sommes entrés dans l'ère des prédateurs, Trump prend acte et c'est aussi un prédateur. Je me demande, moi, si ce n'est pas un matamore. Alors, étant donné ce comportement avec la Russie, et surtout, Trump, l'administration américaine, a expulsé vers le pays des Mollahs des dizaines d'Iraniens demandés par ce régime. Les prédateurs se régalent avec Trump. Excusez-moi, j'étais un peu long.
Alors, Mathieu Bock-Côté. On peut personnaliser et psychologiser la présente administration américaine en mettant de l'avant qu'il soit un prédateur. Je ne doute pas d'une forme de culte de la force chez lui, une dimension impériale plus classique. C'est-à-dire, il aime assujettir ses voisins, il aime assujettir ses alliés. Mais qui dira le contraire? Le problème, c'est encore une fois, c'est que le personnage fait écran à un courant beaucoup plus profond qui correspond, à mon avis, à ce que j'appelle le cycle de 1989. Donc, le cycle de 1989, qu'est-ce que c'est? C'est l'espèce de régime mondialiste et diversitaire qui se met en place après la chute du mur de Berlin, qui est fondée sur le fantasme de l'homogénéisation du monde. On passe de la diversité des peuples à l'interchangeabilité des populations. On relègue toute forme de désaccord de fond avec le nouveau sens de l'histoire aux extrêmes. On assimile tout souci identitaire au repli sur soi. On bascule dans le multiculturalisme agressif qui condamne les peuples occidentaux à devenir étrangers en leur propre pays. On bascule dans une logique d'ingénierie identitaire permanente, d'ingénierie sociale permanente qui vient avec sa part de censure et de contrôle social. Donc, devant ce régime qui s'est installé, il y a eu aux États-Unis, comme en Europe occidentale, des mouvements qui se sont opposés à ce nouveau régime. Et aux États-Unis, par exemple, dès le début des années 90, donc bien avant que Donald Trump ne s'imagine président, Pat Buchanan par exemple, mais c'est pas le seul, heureusement, de nombreux aux États-Unis contestent dès ce moment-là, par exemple, la prétention hégémonique néoconservatrice de l'Amérique qui se voit puissance ordonnatrice du nouvel ordre mondial. En Europe occidentale, les partis dits populistes, d'une manière ou de l'autre, ils ne sont pas tous interchangeables, protestent contre cet ordre nouveau qui s'installe. Donc, Trump, ensuite, arrive, et celui qui permet la victoire aux États-Unis de ce courant, c'est quelqu'un qui le déforme, assurément. C'est quelqu'un qui lui donne un visage pas particulièrement intéressant. Il n'en demeure pour moi que la tendance de fond, qui consiste globalement à restaurer les souverainetés nationales, stopper la submersion migratoire, restaurer une version maximaliste de la liberté d'expression, confesser une grande méfiance envers les technostructures qui se substituent à la souveraineté populaire, ce courant-là dépasse largement Donald Trump et lui survivra. Et de ce point de vue, je pense que c'est une erreur que de se centrer exclusivement sur lui pour ne pas chercher à comprendre que la protestation, on pourrait dire populiste, nationale, conservatrice, appelons-la comme on veut depuis 30 ans, est paradoxalement aujourd'hui la véritable gardienne de la démocratie libérale.
Oui, mais alors, protestation nationale, il y a là un paradoxe sur lequel je voudrais que nous arrêtions. Effectivement, la nation est importante, les peuples européens veulent pouvoir demeurer eux-mêmes, mais quand il s'agit de nation ukrainienne, les patriotes la sacrifient sans aucun problème.
Avant de parler de la nation ukrainienne, quelques mots sur Trump. Même si vous avez tout à fait raison, cher Alain, d'évoquer la question ukrainienne. D'abord, ce qu'il faut dire sur Trump, c'est que prédateur ou matamore, il est président des États-Unis. Le fond de ses intentions est une chose, la parole publique en est une autre, et personne dans l'histoire de la démocratie américaine n'a dégradé la parole publique à ce point. C'est inouï, nous n'avons jamais vu ça, rien qui approche une chose pareille. Le simple commentaire qu'il a fait à la mort de Rob Reiner est dégradant.
Rob Reiner, c'est un réalisateur qui a été assassiné, semble-t-il, par son propre fils.
Voilà, et qui avait le tort d'être anti-Trumpiste et qui s'est fait charrier d'outre-tombe par Trump. C'est ahurissant. Maintenant, et là je serai d'accord avec Mathieu Bock-Côté, Donald Trump est, comme Marine Le Pen en France d'ailleurs, comme le Rassemblement National, mandataire d'un mécontentement qui le dépasse, qui va plus loin que lui, d'un mécontentement qui le dépasse. Reste que c'est à mon sens là qu'on est au cœur du problème, la réponse qu'il offre à ce mécontentement, c'est le populisme sous sa forme la plus rudimentaire, c'est-à-dire en somme une confiscation du pouvoir, une démarche, une volonté, une des velléités antidémocratiques déguisées en restitution du pouvoir. Selon un schéma qui avait été décrit par Machiavel d'ailleurs, qui conseillait aux souverains de se débarrasser des intermédiaires pour être en lien direct avec le peuple et donner aux gens le sentiment que c'est leur décision qui s'applique. Eh bien, comme si Trump avait lu Machiavel ou comme si Machiavel avait décrit Trump dès le 15e siècle, il a mis en place un système qui donne aux gens le sentiment qu'ils retrouvent le pouvoir, qu'ils retrouvent la souveraineté à l'instant même où elle leur est confisquée.
Si je peux me permettre...
Mathieu Bock-Côté.
La confiscation de la souveraineté, c'est l'histoire des 40 dernières années. Que je sache, par exemple, en 2005, le référendum sur la Constitution européenne, le vote a été très clair et la souveraineté a été confisquée. Que je sache, les peuples européens...
Le traité de Lisbonne, ce n'est pas une confiscation de souveraineté, ça a été voté par le Parlement.
Il y a eu un référendum en 2005 assez clair qui tranchait sur cette question. Ensuite, que je sache, encore une fois, les peuples européens ne se sont jamais particulièrement enthousiasmés pour la submersion migratoire. Or, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, elle est imposée de force. Que je sache, encore une fois, il n'y a pas une demande de régulation maximaliste de la liberté d'expression. Elle est imposée aujourd'hui de force. Donc, moi, ce que je note en Europe occidentale, et c'est probablement le paradoxe des temps présents, c'est qu'un autoritarisme nouveau prend forme derrière le masque de l'état de droit. Donc, l'état de droit auquel nous sommes tous attachés s'il s'agit de la défense des libertés publiques, évidemment. Aujourd'hui, au nom de l'état de droit, on assiste d'un côté une forme de gouvernement des juges assez agressif et de l'autre côté un autoritarisme des autorités indépendantes comme on les présente aujourd'hui, donc une forme d'administration qui se substitue aux politiques. Donc devant cela, la parole a été confisquée depuis une quarantaine d'années, encore une fois, je le dis, en Europe occidentale et aux États-Unis aussi, soit dit en passant. Et ensuite, le moment que vous présentez, vous avez raison, c'est un moment césarien. Mais le moment césarien en France, ça s'appelle le moment bonapartiste. Et le moment bonapartiste au 20e siècle, ça s'appelle le gaullisme. Cette idée que de temps en temps, une figure se détache et balaie des élites qui ont fait leur temps et propose une forme de nouvelle synthèse politique, eh bien, à ce moment-là, on appelle ça une forme de refondation démocratique. Je préfère sous la forme gaulliste, je vous le confirme absolument. J'ai pas de sympathie particulière pour Trump. Je note que quand De Gaulle arrive au pouvoir en 58, on hurle au fascisme.
Oui, alors
Sartre hurle au fascisme.
Et la gauche dans la rue, Mitterrand.
Et une certaine gauche, absolument, et Mitterrand qui saura ensuite profiter des institutions qu'il a conchiées. Juste un point quand même. Moi, je suis sensible en lecteur de Tocqueville à l'idée que la démocratie porterait en germe un totalitarisme sournois et qu'il y aurait des procédures totalitaires à l'insu même des citoyens qui s'appliqueraient. Que ne peut-il nous empêcher le trouble de pensée et la peine de vivre, nous ôter le trouble de pensée et la peine de vivre, disait Tocqueville, en parlant de l'État qu'il tenait vraiment pour un monstre froid. Néanmoins, repérer ce totalitarisme dans des crises comme celle du Covid, ou bien dans une confiscation de la parole qui, pardonnez-moi, me paraît tout à fait fantasmatique, en démocratie, dans un état de droit, repérer le totalitarisme sous ces formes-là me paraît non seulement erroné, mais fautif. Fautif parce que c'est méconnaître tout simplement la chance qu'on a d'y vivre et la liberté que nous avons de discuter comme nous le faisons.
Je donne un exemple de cette confiscation de la parole, et je ne parle pas simplement de la fascisation des mouvances critiques de l'immigration massive, Mais de manière, je donne un exemple très concret qui se passe il y a 2-3 ans. L'Institut Iliade, j'en suis pas fan, c'est pas la question, veut organiser un colloque pour célébrer la mémoire de Dominique Venner, dont je ne suis pas un admirateur. La question n'est pas là. Le colloque est
Dominique
interdit.
Venner qui s'est suicidé,
je précise que je n'ai aucune sympathie particulière ni pour cet institut, ni pour le personnage. Mais j'arrive à mon point qui me semble important. Un colloque est organisé et le colloque, on interdit la tenue du colloque parce que pourrait s'y tenir des propos contraires à la loi Pleven. Pourrait s'y tenir des propos contraires à la loi Pleven. Ça, on appelle ça Minority Report. Le film et la nouvelle. Donc, on interdit à l'avance un événement parce que pourrait s'y tenir des propos qui vont
contre. Je n'avais aucune information sur cette interdiction préventive.
Pour moi, je pense que c'est un bon exemple. Et aujourd'hui, quand députés républicains proposent, donc la droite, le centre-droite, proposent d'interdire dans l'espace public les propos anti-républicains, c'est une proposition de loi qui était portée par le centre-droit. Je m'inquiète devant cette volonté liberticide qui prétend sauver l'état de droit en faisant mater tous ceux qui, d'une manière ou d'autre, doutent du dogme.
Je ne doute pas qu'il existe une volonté liberticide à l'œuvre chez certains et l'envie de sanctionner des paroles qu'ils désapprouvent. On le trouve sur tous les bancs de l'Assemblée, sous toutes les couleurs. Ce qui, en revanche, me paraît faux, c'est quand vous parlez d'une fascisation de la critique de l'immigration massive. Il n'y a pas de fascisation de la critique de l'immigration massive. Ce sont les régimes illibéraux qui criminalisent les oppositions. Ce sont les régimes illibéraux, c'est Netanyahou, par exemple, c'est Orban, c'est Poutine, bien sûr. Ce sont les régimes illibéraux qui criminalisent l'opposition, qui présentent l'opposition comme séditieuse ou bien comme porte-parole malhonnête. Nous ne sommes pas là, nous n'en sommes pas là, ça n'est pas ça que nous vivons.
Alors c'est notre désaccord, je crois.
Mais oui. Mais oui.
Là, je voudrais en revenir à Tocqueville. Avant d'aborder quand même le grand sujet qui fâche les deux Occidents, à savoir l'Ukraine. Alors je citerai d'abord Albert Camus. Camus écrit, au sortir de la guerre, « Le démocrate est modeste, il avoue une certaine part d'ignorance, il reconnaît le caractère en partie aventureux de son effort et que tout ne lui est pas donné. Et à partir de cet aveu, il reconnaît qu'il a besoin de consulter les autres, de compléter ce qu'il sait par ce qu'il fave. » La démocratie, philosophiquement fondée sur la finitude. Mais voilà, Tocqueville intervient, parce que Tocqueville dit « La démocratie, c'est aussi un processus, le développement graduel de l'égalité des conditions. » Et pour les cavaliers du processus, il n'y a pas d'adversaire légitime, si vous voulez. Ils vivent sous le régime de l'évidence et du scandale. Évidence de l'hospitalité, en effet, scandale des frontières. Et le monde est divisé entre vivants de plein droit et réactionnaires, c'est-à-dire gens qui ne savent même pas qu'ils sont morts, qui sont périmés. Donc il y a un risque, en effet, dans la démocratie. Je dirais pas un risque totalitaire, mais un risque de voir le débat, en effet, se détériorer parce que, précisément, il y a une sorte d'amphibologie de la démocratie elle-même et que on a tendance à oublier la finitude qui est au fondement de la scène démocratique au profit, justement, de ce développement graduel de l'égalité des conditions à quoi rien ne doit faire obstacle. Et là, je trouve d'ailleurs que sur la question de l'immigration, les choses sont très claires, parce que Raphaël Enthoven, vous dites le débat existe, non. Le droit des peuples historiques à demeurer eux-mêmes est contesté au nom de quoi ? Au nom de l'antiracisme. Et donc au nom de l'antiracisme, on veut effectivement fermer la bouche de ceux qui pensent que ce droit doit être préservé. Raphaël Enthoven.
Non, alors il y a plusieurs choses, et bien on en viendra à la question migratoire. C'est un texte d'Albert Camus que vous citez. Albert Camus est le penseur de la chose démocratique, parce que c'est le philosophe de l'absurde. Or, penser la démocratie, c'est penser un régime qui n'a que lui-même à proposer, dont la seule promesse est dans la perpétuation, l'amendement, l'amélioration, mais la perpétuation de lui-même. C'est la raison pour laquelle on n'a jamais vu en démocratie un régime revenir sur une liberté qu'il avait accordée. La nature humaine est ainsi faite que les gens le vivraient comme une amputation. La démocratie est le régime de Sisyphe par excellence. L'homme démocratique est dans la position de Sisyphe, contraint de désirer ce qu'il a, contraint de désirer ce qu'il possède. Et ceci est extraordinaire. particulièrement difficiles et témoignent en retour, en creux, dans le tempérament démocratique, d'un désir de transcendance que l'on retrouve chez ceux qui prétendent approfondir la démocratie en voulant nous en sortir, c'est-à-dire concrètement les insoumis, qu'on retrouve chez des gens comme Marine Le Pen, qu'on retrouve chez des gens qui tentent d'injecter dans la démocratie un au-delà d'elle-même qui rendrait un sens à l'exercice politique. Je crois tout au contraire que l'homme démocratique doit apprendre à supporter, à surmonter sa finitude et doit se satisfaire de changer ce qu'il peut dans un monde qui, lui, ne change plus. Et c'est ce point-là qui me paraît très important en démocratie. C'est le défi des démocraties et c'est aussi la raison pour laquelle la fin de l'histoire qu'on a connue pendant 20 ou 30 ans est désormais caduque et que l'histoire est désormais repartie. Maintenant, sur la question...
La question migratoire. C'est quand même très important parce que le débat est rendu très difficile par ceux qui pensent en effet que vouloir préserver le droit à la continuité, pour reprendre l'expression d'Ortega y Gasset, c'est déjà le fascisme, ou en tout cas le racisme à l'œuvre.
Je suis un adversaire viscéral de l'extrême droite, même si on peut contester cette expression. Je suis un adversaire viscéral de l'extrême droite, et donc je suis un adversaire viscéral de tous ceux qui lui pavent le chemin. Et je vois ceux qui lui pavent le chemin dans ceux qui pratiquent un déni sur la question migratoire. Il faut évidemment en parler, il faut en traiter. L'exemple danois, de ce point de vue, est très intéressant, où effectivement, la gauche a, d'une certaine manière, réglé la question migratoire. Donc, il y a là un espace de débat, encore une fois, un espace de débat. Je ne fais pas partie des catastrophistes, des collapsologues de l'immigration massive qui considèrent que nous sommes en plein grand remplacement. Je ne vois pas cela, je ne sens pas cela, je ne lis pas cela, mais ceci fait l'objet du débat, tout simplement.
Alors, je suis toujours amusé par la référence danoise, que je ne suis pas, vous me permettrez la boutade, je ne suis pas de ceux qui ont besoin que la gauche soit d'accord avec quelque chose pour que je puisse être d'accord avec elle. Donc, la critique de l'immigration massive est antérieure à la...
C'est Camus qui a dit, si la vérité était de droite, j'y serais.
Oui, d'accord, mais je n'ai pas l'impression que c'est la doctrine généralement admise. C'est un de nos autres amis qui a déjà dit il faut que la gauche fasse une erreur d'elle-même pour avoir le droit d'en revenir ensuite. Et donc, je n'ai pas passé par la case gauche pour avoir le droit ensuite d'être d'accord avec ce qu'elle a fait à la gauche danoise aujourd'hui. Mais sur le point central, sur la question de la démocratie...
Non, mais reconnaissez que quand on est de gauche, il est intéressant de s'intéresser au système danois. C'est logique d'y trouver les linéaments d'une politique possible.
Pas seulement quand on est de gauche. Excuse-moi cette parenthèse, Mathieu Bocoté. Il y a un problème là auquel toutes les forces politiques devraient accepter de se confronter. C'est ça qui est extraordinaire.
Je ne condamne pas un instant la gauche danoise là-dessus. Je constate que certains ont attendu que un gouvernement de gauche au Danemark fasse quelque chose pour se donner le droit de critiquer la submersion migratoire. Et je note, soit dit en passant, parce que ce n'est pas un détail, que la conception de la nation qui existe en Scandinavie n'est pas exactement le double du simple culte des valeurs républicaines à la française aujourd'hui. On a une définition autrement plus identitaire, entre guillemets, ou culturelle de la nation dans les pays scandinaves, ce qui permet de mieux ressentir la possibilité et la réalité de la submersion migratoire. Premier élément. Deuxième élément, je pense que l'homme démocratique doit consentir surtout à ne pas, si on en a chacun sa définition, il doit consentir au fait de ne pas avoir le monopole du vrai, du juste et du bien. Dès lors, il accepte la présence de l'autre dans la cité sans chercher à réduire juridiquement la possibilité de s'exprimer. Et là, on a peut-être un désaccord, Raphaël Enthoven, vous dites qu'aucune démocratie n'est revenue sur les libertés qu'elles accordaient.
Oui.
Dans les faits, depuis 30 ans, les lois sur la haine, entre guillemets, partout en Europe occidentale et aussi en Amérique du Nord, mais surtout en Europe occidentale, les lois sur la haine ne cessent de classer sous le signe des propos haineux un désaccord anthropologique, identitaire.
C'est une question. Alors, c'est pardon.
Mais c'est pour ça que j'adhère à une conception maximaliste de la liberté d'expression. Deux choses me semblent absolument interdites, la diffamation et l'appel à la violence. Pour le reste, quand, par exemple, on le voit en Europe occidentale aujourd'hui, quelqu'un qui remet en question le fait qu'un homme puisse accoucher, puisse se faire traîner devant les tribunaux, peu importe le résultat, le fait qu'on puisse se faire traîner devant les tribunaux parce qu'on va douter de la possibilité qu'un homme puisse un jour accoucher, pour moi, ça me semble relever déjà d'une immense dérive liberticide.
Il y a beaucoup de sujets dans ce que vous dites. Oui, quant beaucoup. À cette immense Raphaël dérive Thauvin. Liberticide, j'ai le malheur de penser qu'on a quand même bien de la chance de vivre où nous vivons. Il faudra revenir sur la différence que vous faites entre une communauté indifférenciée de citoyens interchangeables, d'un côté, et de l'autre côté, un peuple historique qui conserverait son identité profonde. L'origine de ce débat sur le déracinement et l'enracinement, tout ça remonte au XVIIIe siècle et ça rend la discussion d'autant plus intéressante. Maintenant, sur la liberté d'expression, la question est simple. Sommes-nous plus ou moins libres dans un monde où on a le droit de crier mort aux juifs dans la rue, mort aux arabes.
Pardon. Personne ne parle de ça.
Non.
L'enjeu, c'est est-ce qu'on est plus libre dans un monde où si je dis, par exemple, il y a une submersion migratoire, si je dis, par exemple, qu'il y a un lien entre c'est pas moi qui le dis, je cite, qu'il y a un lien entre l'immigration arabo-musulmane et le progrès de l'antisémitisme en Europe, si je dis ça, est-ce que je peux me retrouver devant les tribunaux? Dans la mesure où je peux me retrouver devant les tribunaux pour avoir dit ça, dit Georges Bensoussan, eh bien, je trouve que c'est un monde qui fondamentalement fait l'expérience de la régression démocratique.
Si vous dites ça, vous ferez l'objet de ce que Tocqueville... Si vous dites ça, vous ferez l'objet, en démocratie, de ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire, quand il parle de tyrannie de la majorité, il ne parle pas de la majorité du peuple. Il parle d'une cohorte, d'une horde, qui se ligue pour vous priver de vos droits à l'humanité, pour vous laisser libre, bien sûr, mais tout en vous privant de tous vos droits à l'humanité, tout en vous excluant, tout en vous ostracisant. C'est ce que Tocqueville décrit comme un phénomène purement démocratique de tyrannie de la majorité. Il emploie cette expression pour qualifier le genre de lynchage auquel on assiste en ligne. Et c'est plutôt ça que vous aurez à redouter. Et je suis le premier à penser que c'est un phénomène totalitaire. Néanmoins, au regard du droit, sommes-nous plus ou moins libres dans un monde où, un, on peut dire mort aux juifs ou mort aux arabes, et dans un monde où l'on peut porter une arme, par exemple, que dans un monde où ces droits sont absents?
Mais vous avez un homme de paille. Si je peux me permettre, personne ici Mathieu ne réclame le droit de dire mort aux juifs ou mort aux arabes. Ça, évidemment, tout appel à la violence, quel qu'il soit, mort aux Norvégiens, mort aux arabes, mort aux juifs, mort aux Islandais.
Jusqu'où peut-on aller?
Appel à la violence et diffamation. Pour le reste, le fait qu'on puisse. Je redonne l'exemple
de Bensoussan. Personne ne vous empêche de dire ce que vous dites, cher Mathieu.
Ce que vous dites est factuellement faux. Quand Georges Bensoussan se retrouve devant les tribunaux pendant des années. Mais un instant, le fait d'avoir la persécution juridique durable.
Justement,
toute l'idée, quand on a une vision libérale de la démocratie, c'est qu'on empêche les gens de poursuivre les autres pour des désaccords idéologiques.
Loi ne fait pas tout, c'est la jurisprudence.
Je pense que de ce point de vue, les lois qui se sont multipliées depuis 40 ans, qui permettent justement de poursuivre les gens pour des désaccords idéologiques, sont des lois liberticides et antilibérales.
Pensez-vous ?
Alors moi, je voudrais simplement ajouter un autre article, si vous voulez, à tout ce qu'on ne devrait pas avoir le droit de dire, appel à la violence et diffamation. Mais que faire des fake news, comme on dit, des mensonges, des fausses informations? Il faut protéger, Hannah Arendt le disait, la distinction entre les faits et les opinions, parce que dans un monde où cette distinction n'a pas lieu, la liberté d'opinion n'a même plus aucun sens. Je peux donner quelques exemples, j'en donnerai deux. Le premier, c'est l'infâme rumeur disant que Brigitte Macron est un homme. Elle est colportée aux États-Unis par une influenceuse de la galaxie MAGA. On peut autoriser ce propos? Et puis, beaucoup plus récemment, et le président de la République s'en est inquiété, un reportage généré par l'intelligence artificielle qui nous parle d'un coup d'État en France monté par un colonel, et c'est un chef d'État africain qui a téléphoné à Macron pour lui dire qu'est-ce qui se passe. On ne peut pas laisser les choses allaient ainsi. Raphaël Entoven.
Avant d'en venir à votre livre, cher Mathieu, nous vivons une époque très particulière. Les anciennes tyrannies vacillaient quand un peu de vérité se faisait jour. En 1956, rapport Khrouchtchev, 20e congrès, il se passe quelque chose parce qu'un peu de vérité se montre. Et la vérité changeait la donne. Nous vivons, avec la post-vérité, l'ère du mensonge que la vérité n'annule pas. Ça prend la forme des postes des insoumis qui racontent n'importe quoi sur Israël et la Palestine, par exemple, des choses factuellement fausses, mais qui laissent courir ensuite pour le bénéfice de la rumeur. De la même manière, Jordan Bardella, pas plus tard que ce matin, a dénoncé chez Macron la dilapidation du patrimoine à cause de la vente du tableau de Courbet, le désespéré. Or, le tableau avait été vendu en 2014. Mais Bardella ne retirera pas son poste. Ils ne retireront pas leur poste parce qu'ils se moquent de la vérité. Ils se moquent de la vérité. Et ceci est très important. On est au cœur de la servitude volontaire ici. C'est-à-dire, on est dans le mensonge délibéré. Dans le livre de Mathieu Bock-Côté dit « Le concept d'information manipulatrice témoigne d'une évolution des critères justifiant la censure, qui n'entend plus seulement combattre les fausses nouvelles, mais les informations qui pourraient dérégler le récit dominant. » Cette parole est exactement la même que celle qu'avait tenue Kellyanne Conway à Jack Tapir en 2017 pour justifier les délires de Sean Spicer sur le fait qu'il y avait plus de monde à l'investiture de Trump qu'à celle de Barack Obama et qui avait inventé à ce moment-là l'expression de « fait alternatif ». On était entré ce jour-là dans un monde parallèle où des gens, au nom de l'ouverture d'esprit, se donnaient le droit de raconter n'importe quoi et de recouvrir le réel d'un vernis de n'importe quoi.
Alors, le problème problème, c'est que je m'inquiète, tout comme Alain Finkielkraut, je m'indigne de la sale histoire, le procès, l'attaque menée contre Brigitte Macron. Je trouve ça absolument scandaleux, comme nous tous, je crois. Le fait est que moi, je m'inquiète aussi des mensonges institutionnalisés au nom du culte diversitaire. Par exemple, le fait qu'il soit possible aujourd'hui de n'être ni homme ni femme sur le plan administratif dans tant et tant de pays occidentaux, de décréter l'inexistence de la réalité sexuelle au nom de ce qu'on appelait la théorie du genre, ce n'est pas simplement un petit mensonge qui circule ici et là sur les réseaux sociaux. C'est un mensonge institutionnalisé juridiquement et administrativement dans nos sociétés. Deuxième élément, quand je lis, par exemple, tant et tant de démographes lysenkistes nous expliquer qu'il n'y a pas de submersion migratoire, que fondamentalement, je me rappelle, l'un d'entre eux, qui est professeur au Collège de France, si je ne me trompe pas, dit fondamentalement, il n'y a pas eu de changement démographique en France depuis 40 ans, avec l'argument un peu oiseux qui consiste à dire que la proportion d'étrangers dans la population demeure la même, en oubliant que la naturalisation massive des populations nouvelles qui ne sont pas par ailleurs assimilées change fondamentalement la nature du peuple français. Ça, pour moi, ce sont des mensonges institutionnalisés. Quand, de la même manière, on nous explique aujourd'hui, dans une espèce de récit médiatique un peu étrange, quand on parle par exemple de l'affaire de Crépol, et qu'on ne retient pas dans le récit médiatique le fait que ceux qui ont lancé ce raid voulaient planter du blanc, pour reprendre la formule, l'invisibilisation des faits qui troublent le récit dominant relève aussi pour moi de la désinformation. Alors,
comme à Cologne.
Ah, bien sûr, mais absolument, comme à Cologne. On a tout fait pour que le réel ne passera pas. Alors moi, souci, on est ici devant une forme de mensonge institutionnalisé, mais qui se maquille en vérité progressiste supérieure.
Il y a trois choses dans ce que vous dites, cher Mathieu, pardon. Il y a la question de la transidentité, la question de la subversion migratoire et la question de Crépol. Sur les deux premiers points, la transidentité et la subversion migratoire, il y a débat. Il y a des gens pour dire que l'immigration est une chance pour ce pays. Il y a des gens pour soutenir ce débat et vous seriez vous-même heureux de vous retrouver sur un ring face à quelqu'un qui vous oppose des arguments de cette nature. Ça vous permettrait de faire valoir les vôtres. Il y a débat sur la question de la transidentité, la différence entre le sexe biologique et le genre. Il y a là aussi débat. On peut naturellement dénoncer une tendance délétère.
Vous ne pourrez jamais accoucher.
C'est exactement le prototype du débat que l'on pourrait avoir sur cette question. Faites grâce aux gens qui ne sont pas du même avis que vous de n'être pas fous et d'avoir des éléments à faire valoir. Ce que je veux dire, c'est que dans le cas de la migration comme de la transidentité, nous sommes dans le cadre d'un débat républicain que nul ne vous empêche d'avoir. Dans le cas de Crépol, on est en présence d'un cas de racisme anti-blanc. Or, le racisme anti-blanc, et là pour le coup je serai d'accord avec vous, no passara no réel, le racisme anti-blanc est une réalité. C'est une réalité, et vous ne le dites pas dans votre livre, c'est dommage, c'est une réalité que les gens se masquent en faisant du racisme une histoire, en expliquant que le racisme c'est d'abord une histoire, et qu'on s'inscrit, on perpétue une histoire quand on est raciste. Bien sûr, j'avoue n'avoir lu que celui-là pour l'instant, je lirai l'autre avec grand intérêt. Mais l'argument selon lequel il n'y a pas de racisme anti-blanc vient du fait qu'il n'y a pas eu de racisme anti-blanc, donc il ne peut pas exister. C'est un déni du réel au nom du passé. C'est de la même façon que Don José dit à Carmen « Comment peux-tu ne plus m'aimer alors que tu m'aimais hier ?» C'est la même chose. On est dans un déni maximal et de ce point de vue, on sera d'accord.
Mais alors, simplement, revenons à la question trans, elle est très intéressante. Parce qu'on voit
je ne me fais pas un avocat de la question
trans.
Non,
pas du tout.
Je me fais un avocat de la possibilité d'en discuter.
Oui, justement, c'est de plus en plus difficile d'en discuter avec le concept de transphobie. Et la cancel culture est fondée là-dessus. Et Sylviane Agacinski, comme Caroline et la chef, en ont fait frais.
Les deux éléments, je prends juste un exemple. Prenons la recherche du temps perdu. Dans la recherche du temps perdu, aucun des personnages n'a son sexe biologique. Le narrateur est en réalité homosexuel. Le baron de Charlus est en réalité une femme. Il le dit, c'était une femme. Il dit pas, il ressemblait à une femme. Il dit, c'était une femme. La littérature elle-même a beaucoup joué du fait que le sexe n'était pas le genre. On va pas bannir ces textes au motif.
Personne ne parle de ça. Ce dont on s'inquiète, je crois, aujourd'hui, avec raison, je pense, c'est lorsqu'on est dans une forme de falsification lysenkiste du réel, lorsqu'il est possible d'entendre de pays occidentaux aujourd'hui d'opérer sa transition sociale de genre parce que je décide de m'inscrire au registre de l'autre sexe. Et quand Mme Ursula von der Leyen, parce que la technostructure autoritaire européenne m'inquiète, lorsqu'elle dit qu'un pays qui n'accepterait pas la transition sociale de genre chez les enfants doit être sanctionné par la Commission européenne, eh bien, je m'excuse, mais là, on est devant une tentation autoritaire. Et encore une fois, ça nous ramène à notre débat de base. On est dans ce moment historique étonnant où ceux qu'on accuse d'être populistes sont en fait les derniers gardiens de la démocratie libérale.
Oui, les démocrates sont pour Yale, Trump est pour vous. C'était l'argument de campagne de Donald Trump. Et c'est une des raisons de sa victoire. Le délire autour de la transidentité a favorisé effectivement le triomphe de Trump. Il faut bien le reconnaître.
Mais pardon, le délire autour de la transidentité. Il y a deux adversaires au débat dans ces questions. Il y a ceux qui criminalisent comme transphobes tout discours qui doute là-dessus et qui font à J.K. Rowling, par exemple, le procès d'être transphobe. Ben oui, ça, c'est un premier adversaire du débat. Le deuxième adversaire du débat, c'est de considérer qu'on a saturé le débat en expliquant qu'il y avait une différence irréductible entre les sexes.
Ben, quand on pense à la transition chimique imposée aux enfants selon le caprice des parents, moi, ça m'inquiète fondamentalement.
Mais moi aussi.
Alors, on est plutôt d'accord
Ça n'est pas une fausse alternative, c'est très important. Je ne me fais pas l'avocat, en l'occurrence, de la transidentité, je me fais l'avocat du fait que ceci fait partie du débat, qu'il n'y a aucune censure. Nous ne vivons pas dans un régime de censure, nous ne vivons pas dans un régime autoritaire. L'Union européenne n'a rien d'autoritaire. La comparaison que vous faites, je change de sujet mais à dessein, ça permet d'aborder d'autres points de son livre, la comparaison que vous faites entre l'Union européenne et l'URSS n'a strictement aucun sens. Il n'y avait pas de char européen dans les rues de Londres après le Brexit. Je trouve qu'il y a là... C'est dommage, ces excès, le sentiment que nous vivons une époque totalitaire qui vous fait ressembler à des gens comme Lordon ou à Badiou, par exemple, pour qui c'est exactement la même chose, mais de l'autre côté, ce sentiment que nous vivons une époque totalitaire en démocratie me paraît délétère et dommageable.
Alors, au-delà du sentiment des uns et des autres, je propose une série de faits qui me semblent importants.
Vous allez donner les vôtres, voyez ce que je veux dire.
Honnêtement, sur le fond des choses, moi je ne veux interdire personne. Prenez au sérieux mon maximalisme en matière de liberté d'expression.
Hélas.
Mais c'est comme ça. Vous n'interdisez
pas Alain Soral.
S'il dit des propos comme je viens de dire, Alain Soral, c'est un piège. Alain Soral, je n'ai aucune sympathie pour ce personnage.
Mais personne n'en doute.
Alors, une fois que c'est dit, s'il ne dit rien qui est contre, par exemple, je l'ai dit, la diffamation, l'appel à la violence, même les gens que je désapprouve et que je réprouve ont le droit à la parole publique. Parce que j'ai toujours ce souci fondamental, c'est qu'il y a toujours quelqu'un devant nous qui va trouver que ce qu'on dit est absolument inacceptable. Et ça va être votre tour un jour, le sien, le mien. Et dès lors, je préfère qu'on régule le débat public par une parole publique critique, une parole publique raisonnable, une parole publique quelquefois très sévère, plutôt que la multiplication des lois en fonction des adversaires du moment, même s'ils sont fondamentalement toxiques.
Alors simplement, maintenant je voudrais en venir à la question qui divise l'Occident aujourd'hui. On y a fait allusion tout à l'heure. L'Ukraine. L'Ukraine, vous dites, Mathieu Bocoté, dans votre livre, que l'Europe va trop loin, que son militarisme lui permet en fait de renforcer ses pouvoirs, l'Union européenne, et que il est absurde de parler d'une époque munichoise. D'un autre côté, vous avez Trump, qui, je le répète, est un matamore plutôt qu'un prédateur, qui vise effectivement à la capitulation de l'Ukraine. Or, Sergueï Karaganov, directeur du Conseil de politique étrangère de défense russe, a fait cette déclaration. Notre véritable adversaire est bien l'Europe et non la malheureuse Ukraine misérable et manipulée. Cette guerre a déjà commencé. Simplement, nous ne l'appelons pas encore ainsi. Cette guerre a commencé par des sabotages, des piratages, des attaques hybrides en Pologne, dans les États baltes, en Allemagne, au Danemark et même en France. Donc, nous ne voulons pas d'ennemis, mais c'est l'ennemi qui nous désigne. Et quand l'ennemi nous désigne, la moindre des choses, c'est de vouloir s'en rendre compte. Et on peut se dire que l'extrême centre au pouvoir, ça a plus de dignité que si aujourd'hui Philippe de Villiers, qui est le grand timonier de CNews, ou Jean-Luc Mélenchon, dirigeaient la France. Parce qu'à ce moment-là, ils appelleraient à se prosterner devant la Russie. Donc, il me semble, moi, que le sursaut européen
et la façon dont l'Europe prend son destin en main sont de très bonnes alouettes.
Alors, pour Mathieu Bocoté, une formule que vous appréciez, je pense qu'il faut savoir compter jusqu'à 2, et peut-être jusqu'à 3, jusqu'à 4. Je m'explique. Je vois, et c'est probablement parce que je suis québécois, je vois la Russie avec les yeux d'un Balte. Il n'est jamais agréable d'être le voisin d'un empire qui a un réflexe prédateur et qui se sent humilié dès lors qu'il ne vassalise pas ses voisins. Premier élément. Donc, je ne trouve aucune circonstance atténuante à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Aucune d'entre elles. Donc, on ne me trouvera pas dans ce camp de ceux qui trouvent des raisons à la volonté prédatrice de la Russie. Premier élément. Deuxième élément, je m'inquiète néanmoins de l'instrumentalisation de la menace russe qui est réelle par l'extrême-centre européen qui en profite pour accélérer la centralisation fédérale de l'Europe. Deuxième élément. Troisième élément, par ailleurs, parce que je m'inquiète de ce que j'appelle les néo-néo-conservateurs européens qui rêvent d'une forme d'affrontement global avec la Russie, alors qu'on oublie que c'est un empire autoritaire avec la puissance nucléaire. Je pense qu'un système international qui fonctionne à peu près correctement est un système de pare-feu qui fait en sorte que les conflits régionaux ou locaux ne deviennent pas mondiaux. Je pense, à la lumière de cela, qu'il faut savoir que la Russie n'est certainement pas un ami, est un ennemi parce qu'elle se comporte comme telle, s'il le faut, très bien, j'entends, mais il ne faut pas courir au conflit parce qu'il y a une forme de nostalgie wilsonienne dans l'extrême-centre, qui est à peu près la chose suivante. L'Ukraine, soutenue par l'Europe, réussit à reconquérir tous les territoires occupés par la Russie. J'en doute sérieusement que ça arrive. Parce que la Russie échoue, Poutine tombe, la démocratie s'installe en Russie, et finalement, à terme, un nouveau pays est gagné à la démocratie, la Russie post-poutinienne. Je ne crois pas du tout à ce scénario.
Personne n'y croit, pardon. Je ne vois aucun messianisme démocratique dans la guerre à la Russie.
On ne lit pas exactement les mêmes. Donc, voyant cela, je rappelle simplement, donc, dans l'ordre, tous ces éléments, puis en dernière instance, parce que ça me semble important, je m'amuse de ceux qui ont maudit le patriotisme et le nationalisme, entre guillemets, pendant des années, et qui soudainement redécouvrent les vertus de la patrie, du nationalisme, et même de la patrie charnelle en Ukraine, alors qu'ils se l'interdisaient pour la France et d'autres pays européens. Alors,
ces gens-là sont moins amusants. Ces gens-là qui redécouvrent les vertus du patriotisme sont moins amusants, pardonnez-moi, que les patriotes fervents qui, soudain, sont pleins de mansuétude pour la démarche de la Russie. Ça n'est pas la même chose. Moi, ceux qui me font marrer, ce sont ceux qui défendent à tout prix la patrie, qui sont des patriotes ardents et qui trouvent qu'il faudrait s'entendre avec la Russie et consentir, en somme, à ce qui relève d'une prédation objective d'un pays reconnu dans des frontières établies. C'est ça qui m'étonne. Maintenant, sur la question de l'Ukraine, le rapport à Munich est tout à fait étonnant, c'est-à-dire que la ressemblance avec Munich va jusqu'aux prétextes invoqués. Hitler invoquait la protection des minorités germanophones dans les Sudètes, de la même manière que Poutine invoque la protection des minorités russophones dans le Donbass. C'est la même chose, c'est la même démarche, c'est le même geste, c'est le même mensonge. Et vous dites dans votre livre que l'invasion de l'Ukraine est le clin d'œil providentiel d'un régime épuisé qui a trouvé l'occasion de remobiliser la société à son service. La seule chose que vous trouvez à dire sur l'Ukraine, c'est la façon dont un régime l'instrumentalise, le weaponise, hein, pour dénoncer une menace russe et faire augmenter un agenda fédéral. Pardon, c'est pas ça qui se passe. Il se passe que la Russie a agressé l'Ukraine, ce qui n'était dans les plans de personne à part de Poutine, et que c'est en réaction à une agression objective qui est le prélude à d'autres agressions et à une démarche et à une logique impérialiste et au déni des nations, c'est en réponse à cela que l'Europe est en train de s'organiser. Il ne s'agit pas d'un agenda sournoisement fédéral ou d'une centralisation fédérale, oxymore que je vous laisse, mais il ne s'agit pas d'un agenda sournoisement fédéral, il s'agit d'un réflexe de survie d'un univers qui découvre sa vocation politique à l'occasion d'un ogre.
Non, alors, si je peux me permettre, je réponds sur deux points ici. Premier élément, j'ai eu l'occasion d'écrire sur la question ukrainienne à de nombreux endroits, sans la moindre ambiguïté, si je peux me permettre de le redire. Je le redis, la Russie à la manière d'un empire prédateur, et être voisin de la Russie est catastrophique à l'échelle de l'histoire. Personne n'a envie d'être voisin de ce pays.
Mais pourquoi la référence à Munich vous paraît-elle déplacée? Alors que, en Estonie même, on agite le problème des minorités russophones,
Je vois très bien. Puis par ailleurs, il ne faut pas oublier que les premiers peuples qui ont été dans la deuxième moitié du XXe siècle la cible d'une tentative de submersion démographique planifiée, ce sont les Baltes, parce que les Russes ont voulu installer des colonies de Russes là-bas pour être capables de noyer les Baltes chez eux. Bon, premier élément. Cela dit, mais peut-être est-ce une forme de crainte exagérée, mais je ne crois pas, nous sommes devant un empire nucléaire agressif. je ne crois pas qu'on doive flirter avec l'idée d'un affrontement direct avec cet empire nucléaire agressif, comme s'il s'agissait d'une forme de mission démocratique à laquelle nous ne pourrions nous dérober. Et je doute par ailleurs que la référence à Munich a un défaut. C'est qu'elle nous ramène toujours systématiquement aux années 30, aux années 40. Et je pense que nous devons affranchir la réflexion politique de l'obsession des années 30 et 40. Et je m'explique sur ça. La paix dans l'histoire du monde n'a pas toujours eu le même visage. La paix n'est pas toujours kantienne, c'est le moins qu'on puisse dire. La paix n'est pas toujours wilsonienne, ce que j'appelle le faire tomber le régime fauteur de guerre et semer la démocratie partout. La paix consiste quelquefois à s'entendre sous le mode du réalisme avec un empire que nous désavouons fondamentalement, mais que nous ne ferons pas tomber. Le réalisme n'est pas l'autre nom de la capitulation. Et de ce point de vue, soutenir l'Ukraine ne veut pas dire, par ailleurs, tomber dans cette idée que seul l'affrontement global nous permettra d'arriver à la rédemption démocratique.
Il n'y a aucun soutien de l'Ukraine hors de la guerre à la Russie. Il n'y a aucun soutien de l'Ukraine possible hors du financement de cette guerre à la Russie. Il n'y a aucun soutien de l'Ukraine hors d'une Union européenne soudée dont le projet serait de faire entrer l'Ukraine en Europe et de la garantir et de la sanctuariser de cette façon.
Je suis
très étonné, mais ça a déjà commencé. Nous sommes en guerre contre la Russie. Alors, ça n'est pas un affrontement armé.
Pour l'instant,
ça se passe sur le terrain de l'opinion. Mais nous sommes en guerre contre la Russie. La Russie pollue nos élections. La Russie interfère dans nos élections. Vous voyez un déni de démocratie dans l'annulation des élections roumaines. Moi, je suis ravi qu'on ait annulé des élections qui avaient été polluées, contaminées par la Russie. L'erreur fondamentale du pacifisme que vous faites, et je m'étonne que vous la fassiez. L'erreur du pacifisme, c'est de croire que la guerre dépend de nous. De croire qu'il ne dépend que de nous d'être en conflit avec la Russie. On n'a pas choisi d'envahir l'Ukraine. On n'a pas choisi que la Russie envahisse l'Ukraine. Ça ne dépend pas de nous.
Mais alors là, premièrement, si je peux me permettre, je ne me crois pas particulièrement pacifiste. Ça, ce sont les catégories propres à l'extrême centre.
Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Si vous ne voulez pas faire la guerre à la Russie, vous êtes pacifiste. Vous avez le droit.
Je vous laisse le privilège de vouloir faire la guerre à la Russie. Je pense, quant à moi, quand c'est ma
matière... Mais c'est pas faire la guerre. Nous sommes en guerre contre la Russie.
Nous sommes dans un affrontement qui relève de la guerre froide, entre guillemets, à la rigueur. Faisons tout pour que ça ne bascule pas à la guerre chaude. Deuxième élément, les élections roumaines. Quand on regarde le dossier dans le détail, on constate que les fameuses ingérences étaient beaucoup plus... relevaient davantage de la propagande de la campagne des uns des autres que d'une ingérence pilotée à partir d'un régime étranger. Mais puisque le candidat déplaît, on décide d'annuler l'élection. Et en 2027... Et en 2027, je note que j'entends déjà dans les gens de ce qu'on appelle ce que j'appelle l'extrême centre, des gens dire que si le RN ou le camp national plus largement arrive au deuxième tour de la présidentielle et pire encore l'emporte, c'est parce que ce sera une réussite des manipulations russes ou trumpiennes en France.
Mais c'est très probable.
Donc dès lors, vous contestez la possibilité d'une victoire par leur propre dynamique démocratique.
Mais pas du tout. Je ne conteste rien du tout.
Mais quand j'entends par exemple une députée importante au Parlement européen dire que dans ce cas-là, puisque les élections seraient corrompues par l'ingérence russe ou trumpienne, dès lors il y aura un soupçon sur la légitimité et la légalité de ces élections, je crains un scénario dans ce moment-là, dans leur esprit, je ne dis pas que ça va arriver, mais dans leur esprit, je crains qu'il y ait une forme de fascination roumaine qu'ils voudraient bien plaquer en Europe occidentale. Mais devant cela, encore une fois, je ne m'enthousiasme pas du tout à l'idée qu'on annule les élections dont le résultat nous déplaît.
Ce qui fausse votre perception des choses, c'est que vous voyez un tropisme tyrannique dans une démocratie libérale. C'est très fascinant, vous le repérez là où il ne se trouve pas. L'annulation des élections du premier tour des élections en Roumanie correspond à des soupçons d'ingérence étrangère qui sont spectaculaires.
La manipulation de comptes TikTok.
Ça ne fait pas de doute sur les effets qu'il y a eu en termes démocratiques là-dessus. Ce sont des manipulations spectaculaires. C'était un enjeu démocratique que les élections fussent organisées dans un contexte plus sain. Ça me paraît tout à fait naturel. Et il n'y a pas là de tropisme illibéral, il n'y a pas là de danger dictatorial.
Ce serait quand même difficile, Raphaël Enthoven, de parler de manipulation trumpienne et poutiniste en 2027.
Mais
si vous voulez, le Rassemblement national largement en tête, et ça ne vient pas de Poutine.
Quant à 2027, il n'est pas douteux que le Rassemblement national est aujourd'hui largement en tête dans les sondages. Le Rassemblement national est un des deux termes de l'alternative qui nous prépare entre la clôture et l'ouverture. Il est d'une certaine manière normal que le Rassemblement national soit si haut aujourd'hui. Reste que il n'est pas douteux non plus que pendant les élections, nous allons avoir à subir des tentatives d'ingérence étrangère et très certainement venues de la Russie. Ce n'est pas un motif d'annulation recevable en ce qui me concerne, mais en l'occurrence, il n'est pas douteux que nous aurons à le subir et que sur le terrain de l'opinion, sinon, il faudra aussi déconstruire les hoax russes qui vont polluer le débat.
Si je peux me permettre, quand on voit, par exemple, la moindre campagne électorale nationale, en Europe ou ailleurs d'ailleurs, on voit les partis frères se mêler de ce qui se passe dans le pays d'à côté en disant « votez pour lui plutôt que votez pour elle » et ainsi de suite. On nomme ingérence lorsque l'ingérence, entre guillemets, nous déplaît.
Quand elle est sournoise.
Et je dirais
quand elle se masque, quand elle avance masquée, c'est pas la même chose. Non,
quand, par exemple, Elon Musk a décidé de se mêler des élections allemandes, quoi qu'on en pense, eh bien, on a nommé ça ingérence. Or, il ne se cachait pas. Pourtant, l'extrême centre a nommé ça ingérence. Et voulait bloquer, dans la mesure du possible, Twitter en Europe, parce que Musk faisait une ingérence, dit-on, dans les élections allemandes. Que je sache, on n'a pas le même souci lorsque d'autres milliardaires décident de se mêler des élections ailleurs. Ensuite, je me permets de rajouter un mot.
Soros?
Oui, bien sûr. Mais,
vous savez que la fortune de Soros est 1000 fois inférieure à celle d'Elon Musk.
Je ne doute pas qu'il est zélé. L'Open Society est zélé.
Ensuite, je
n'en fais pas l'explication générale de toute chose, mais je me permets un clin d'œil, si je peux me permettre. À l'échelle de l'histoire, toutes les grandes puissances finissent toujours par se mêler de la chose du voisin. Ça, je le constate. La plus belle ingérence de l'histoire française des 70 dernières années, c'est le Vive le Québec libre en 1967. Bien heureuse ingérence dans les circonstances.
Ah, c'est clair.
Bon, 24 juillet 67. Une fois que c'est dit, de manière plus sérieuse.
Mais comment pouvez-vous mettre ça sur le même plan?
Je ne mets pas ça sur le même plan. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Là, je faisais un clin d'œil là-dessus sur le fait que finalement, les grands pays finissent toujours par se mêler des affaires des autres. Mais sur le fond des choses, sérieusement, aujourd'hui, je pense qu'on instrumentalise la référence à l'ingérence russe ou l'ingérence américaine pour ne pas chercher à comprendre la dynamique propre des populismes ou des conservatismes qui émergent par une dynamique démocratique légitime. L'argument russe est utilisé pour dire, en essence, ça ne compte pas. Le Brexit, on nous a expliqué que le Brexit, c'était encore une fois le fruit d'une manipulation
de Cambridge Analytica. Le Brexit est le fait de mensonges spectaculaires par des gens qui ont reconnu après le Brexit qu'ils avaient menti.
Comme quand les partisans du Remain disaient qu'avec le Brexit, ça serait la Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est un mensonge immense, quand même.
Il y a deux choses, si vous voulez. Il y a mentir sur les chiffres et il y a se tromper dans ses prédictions. Ce n'est pas le même mensonge. Ça n'est pas la même chose.
C'est le mensonge vertueux.
Écoutez, nous terminerons sur ce beau désaccord.
Mais oui.
Alors, Mathieu Bocoté, je rappelle le titre de votre livre, Les deux Occidents, aux presses de la Cité. Raphaël Enthoven, vous avez publié récemment un livre bouleversant sur Catherine David, votre mère.
Merci, Alain.
Journaliste au Nouvel Observateur, mais j'ai appris aussi dans ce livre, pianiste virtuose. Et c'est vraiment un livre très, très émouvant. Il est publié sous le titre L'Albatros aux éditions de l'Observatoire. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Olivia Branger. La semaine prochaine, nous rediffuserons l'émission « Lire et relire Madame Bovary » avec Marie-Hélène Lafont et Philippe Dufour. Le samedi 3 janvier, nous rediffuserons « Sartre et Aron » avec Perrine Simon-Naoum et Frédéric Vance. L'émission reprendra le samedi 10 janvier avec « Qu'est-ce que le populisme ?». Mes invités seront Nona Maillère et Marc Lazare dans un instant « Concordance des temps » de Jean-Noël Jeannonet.